un autre établissement, et il y en a certainement plein et plein d'autres. C'est juste qu'il commence à sortir. Là, le podcast, il est fait en mars 2025. On essaiera d'actualiser l'article, mais voilà, on espère, enfin, on imagine que ça va ouvrir, libérer la parole sur plein d'autres établissements dans le sud-ouest. Saint-François-Xavier à Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, en 1983, où Cyril Gane en CM2 a été violé par un élève. Il ira ensuite à Bétarame, où il sera encore violé. Je cite. Dès le début de l'année, je me faisais coincer dans un coin de la cour par des élèves plus vieux que moi. L'un d'entre eux me met le ventre sur ses genoux, et en public, il passe sa main sous son short et procède à des pénétrations anales. Après le viol et les coups donnés par des élèves et des surveillants à Ustaritz, j'ai abordé la rentrée 87 à Bétarame avec la peur au ventre. Mais j'étais loin d'imaginer de ce qui m'attendait. Maintenant, on va s'intéresser à une autre communauté, enfin on change entre guillemets d'établissement, de congrégation et de réseau d'établissements, avec la communauté des Béatitudes. François Bayrou en fait le lien entre Bétarame et la communauté des Béatitudes, implantée principalement dans la région d'Albi au départ. En effet, il a fréquenté et soutenu cette communauté dès les années 80, n'étant au courant d'aucun des crimes qui avaient lieu, malgré, soi-disant, hein, il est au courant de rien, malgré sa très grande proximité avec ses dirigeants, notamment le fondateur Gérard Croissant. Il allait à la messe le dimanche à la communauté de Ney, donc dans le 64, qui est une des communautés des Béatitudes. Ainsi, l'extrait suivant d'un documentaire datant de 2011 est éloquent, je cite, vous pouvez l'écouter, donc François Bayrou, je cite François Bayrou en 2011, « Moi, je n'ai jamais rien vu. Si j'avais su la moindre chose, je vous assure que j'en aurais avisé les autorités. Je déteste l'esprit sectaire. Je les vois vivre depuis 30 ans, je n'ai jamais vu la moindre dérive de cet ordre. » Fin de citation. Donc en fait, lui, il a toujours la même attitude, hein. Il nie tout. La communauté des Béatitudes a été fondée par deux couples protestants en 73 sous le nom de communauté du lion de Juda et de l'agneau immolé, dont Gérard Croissant, alias Éphraïm, deviendra rapidement le gourou et le prédateur. Elle prône de revenir aux racines juives du catholicisme et de vivre de manière très simple, voire pauvre, comme Jésus de son vivant. Des dérives sectaires se révèlent assez rapidement avec un patrimoine immobilier énorme, des viols sous emprise du gourou et des viols sur mineurs par dizaines. Cela représente aujourd'hui au moins 51 communautés dans 27 pays. Allemagne, Belgique, Bosnie, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Italie, États-Unis, Pérou, Kazakhstan, Liban, Israël, Nouvelle-Zélande, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo et un orphelinat au Vietnam. Je vous ai mis la carte. En France métropolitaine, elle est implantée, avec des bâtiments et des communautés, à Auribeau-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes, à Autrey, dans les Vosges, à Blagnac, en Gironde, à Castell, dans les Pyrénées-Orientales, à Cucq, dans le Tarn, Sables-d'Olonne, 85, à Lisieux, 14, à Lourdes, 65, Maisons-Alfort, région parisienne, donc à Ney, dans le Pyrénées-Atlantique, à Nouhans-le-Fuselier, dans le 41, Pont-Saint-Esprit, dans le 30, Saint-Brolladre, dans le 35, en Bretagne, et Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Vous avez également la carte. Fortement marquée par l'arche de Lanza del Vasto, que le fondateur Gérard Croissant avait beaucoup fréquenté et qui était présent à l'abbaye de Bonnecombe dans l'Aveyron où auront lieu de nombreux viols d'enfants par les Béatitudes. Donc le fondateur a créé tout ça. Un autre mentor de Gérard Croissant est un certain Thomas Philippe, inventeur d'une doctrine mystico-sexuelle qu'il avait appliquée à la communauté L'Eau Vive, nous y reviendrons, appelée l'amour-amitié. En 1996, un livre est écrit par d'anciens membres intitulé Les naufragés de l'esprit. Il dénonce publiquement des dysfonctionnements et une obéissance conduisant à l'infantilisation des fidèles qu'il considère comme des dérives sectaires. À partir de 2007, la communauté est l'objet de plaintes en justice pour des abus sexuels notamment. La revue Golias de la maison d'édition catholique du même nom y consacre même un numéro spécial en juin 2007. Notre-Dame de Bonnecombe dans l'Aveyron. Depuis 2008, de nombreux scandales émaillent la vie de la communauté des Béatitudes, notamment celui de Pierre-Étienne Albert, ami proche du fondateur, donc Gérard Croissant, et numéro 3 des Béatitudes pendant des années. Confronté par une membre respectée sur ses comportements suspects avec les enfants, Pierre-Étienne Albert lui avoue ses penchants pédophiles et va même lui confier la liste de ses victimes. Elle le convainc d'aller se dénoncer en allant au tribunal pour rencontrer un juge, et dans la voiture, il avoue 15 crimes. Finalement, il en écrit pendant 3 semaines avec plus de 50 noms. Puis, à sa grande surprise, donc la dame, elle est ostracisée et reclue à l'intérieur même de la communauté, donc interdit d'aller à la messe, interdit d'aller au réfectoire, car elle est soi-disant possédée par le démon. Pierre-Étienne Albert a violé au total au moins 61 enfants de 5 à 14 ans à l'abbaye de Bonnecombe entre 85 et 2001. Une partie des crimes était prescrite. Il a été condamné, écoutez bien, à seulement 5 ans de prison en décembre 2011, dans un premier jugement concernant 38 enfants, et à 3 mois et 2000 euros d'amende dans un deuxième jugement en 2015 pour une agression sur une jeune fille de 12 ans. Il sera seul sur le banc des accusés, alors qu'au moins 3 responsables de la communauté, dont Gérard Croissant, savaient depuis au moins 10 ans qu'il était pédocriminel. Ce sont les aveux qui ont été recueillis par les policiers. Il y a même une lettre qui l'atteste. Gérard Croissant, dans cette lettre, lui ordonne de garder le silence au tribunal sur ce sujet. Je cite: Tu ne voudrais pas que tes supérieurs fassent 18 mois de prison ferme. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Amélie, une victime, témoigne, elle a été violée de 6 à 11 ans par Pierre-Étienne Albert. Je cite: Il m'a violée pendant au moins 5 ans. Ça pouvait être en public, sous la robe, ou alors il venait dans ma chambre, ou il m'emmenait dans sa chambre. Cette douleur ne s'atténue pas du tout. On vit avec la souffrance de ce qu'on nous a fait, avec la honte, la culpabilité. Les adultes qui n'ont rien fait et qui aujourd'hui ne font toujours rien et nous laissent avec cette honte en gardant le silence, et eux, ils se lavent les mains de tout ça. Fin de citation. Gérard Croissant et Philippe Diacre sont finalement renvoyés par l'Église en 2007. Et en 2010. Un autre endroit, Notre-Dame d'Autray, donc également des Béatitudes dans les Vosges. En 2008, 10 anciens élèves auraient été victimes de viol de la part de deux prêtres de l'internat, les pères Dominique Savio, qui se faisait appeler Georges Silva, Martin de Tours ou Martin Silva, des personnages religieux, et Henri Suzeau, alias Marie-Bernard d'Alès. Dans les années 90, à l'internat d'une école gérée par la communauté des Béatitudes au sein de l'abbaye Notre-Dame d'Autray, 88-2007 dans les Vosges. Ces 30 dernières années, plusieurs responsables de l'église ont été alertés des agissements des deux prêtres. 8 anciens élèves se sont déjà suicidés. L'affaire a été classée sans suite en 2010. Dominique Savio a été nommé numéro 2 des Béatitudes en 2015, puis finalement écarté en 2023 suite à une enquête du magazine catholique La Croix Hebdo. Donc cette enquête s'appelait Sous-emprise, révélation sur des abus sexuels présumés dans un internat catholique. Vous pouvez tout à fait le lire, il est dans l'article. David a été violé par le berger d'Autray, s'est suicidé après plusieurs tentatives à Autray même. Le berger a été transféré dans une autre communauté. Florent, 13 ans à l'époque, en 98, aujourd'hui quarantenaire et père de famille, témoigne. Si j'accepte de parler à la presse, c'est parce que j'ai la rage. J'ai mis tellement de temps à prendre conscience de la perversité de ce que j'ai vécu. Alors aujourd'hui, je n'ai plus peur. C'est à eux d'avoir peur. On nous répétait que d'anciens élèves essayaient de détruire la communauté. Le père Henri Suzeau nous a demandé de ne pas dire aux gendarmes en charge de l'enquête que certains accompagnements spirituels se passaient dans la chambre. J'avais des douleurs anales. Je l'ai pris comme un acte médical. Un soir, j'appelle mes parents et juste avant de raccrocher, je dis à ma mère: Il faut que j'aille retrouver le père Suzeau dans son lit pour lui faire un câlin. Ma mère m'a interdit d'y aller. Florent raconte aussi que le père Henri Suzeau le fait s'allonger nu, de côté, sur l'épaule gauche, dans son lit, une place. Je cite: Le prêtre aussi est nu, donc lui aussi est nu. Il se place derrière l'adolescent de 17 ans en chien de fusil et lui dit à l'oreille: Ne bouge plus. Florent se sent maintenu entre ses bras qui l'enlacent, tétanisé. À plusieurs reprises, Henri Suzeau aurait tenté de le sodomiser. Il y a quelques victimes avec quelques témoignages qui sont dans un documentaire que je vous présente après. Donc notamment Nicolas qui parle aussi, Olivier qui lui a été victime dans un autre comité des béatitudes à Tillechâteau en Belgique. Donc c'est un endroit qui s'appelle les Maries médiatrices de toutes ces grâces à Tillechâteau. En 2009, un documentaire de Carl Zéro intitulé Dans l'enfer des béatitudes est diffusé sur la chaîne 13e rue et expose le scandale pédocriminel au sein des communautés des béatitudes. Ils décrivent, donc les témoins, la séduction d'une famille dont le berger est le père et la communauté la mère. Sauf que le père n'est pas protecteur et la mère pas nourricière. Des techniques d'épuisement se présentent, bâtiments mal chauffés, manque de nourriture, très pauvres. Pas forcément soignés, ils sont pas forcément soignés autrement que par des exorcismes et des prières. Il y a des levées forcées au milieu de la nuit pour des prières et un jeûne forcé de 72 heures par semaine. Ainsi, on casse les défenses de la personne pour les violer psychiquement. Petit à petit, ils acceptent tout et s'abandonnent. Les membres préférés d'Ephraïm, dont Gérard Croissant le fondateur, sont ceux qui ne posent pas de questions, évidemment. Puis on faisait des exorcismes sur les esprits critiques. Par exemple, on les traînait dans la chapelle. En 76, Cathy, une jeune prostituée de 20 ans, arrive aux Béatitudes et elle a été l'objet de multiples exorcismes. Elle a été changée de communauté de manière discrète et s'est suicidée là-bas, dans sa chambre, et presque personne n'a été au courant. La première chose qu'on demande à un nouveau membre, c'est de donner tous ses biens à la communauté. Au bout de 6 ans, il y a même la signature d'un contrat de don de tous ses biens présents et à venir avec une clause de non-réclamation. Le top de la manipulation mentale était l'induction sous hypnose de faux souvenirs, soi-disant reçus du ciel, pour couper les liens avec les membres de leur famille biologique, souvent les parents, en leur révélant un soi-disant terrible drame familial dont ils n'avaient pas conscience, un viol, de la maltraitance, un avortement, des incestes platoniques, parce que c'est, etc. En 2011, un autre documentaire intitulé Les Béatitudes, une secte aux portes du Vatican, est réalisé par Sophie Bonnet pour l'agence Kappa. On y apprend qu'à partir de 92, Gérard Croissant avait fait aménager de luxueux appartements dans un château donné à la communauté pour y vivre avec sa compagne, entre guillemets, mineure à l'époque des faits. Donc, des 16 ans de la petite à 24 ans. Et elle était complètement sous emprise avec des menaces de suicide faites à ses parents si jamais ils cherchaient à la récupérer. Alain Legros, l'ancien homme à tout faire de Gérard Croissant, y témoigne. Je cite: Gérard Croissant avait besoin de voitures assez confortables. Il n'hésitait pas à acheter un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Il n'avait aucun scrupule à être dans le luxe. Ephraïm a eu des liaisons. J'ai protégé la vitrine pendant des années. En plus d'être vraiment un malade, c'est un obsédé sexuel. Même avec une mineure, et pendant ce temps-là, j'étais avec les parents qui étaient au courant dans une autre communauté, ne sachant pas comment faire pour retirer leur fille des mains de cet homme. Fin de citation. On complétera le tableau par un aquarium en extérieur chauffé, alors que les membres, eux, dans la communauté, sont transit froid. Une fidèle constatant ses multiples entorses, entre guillemets, à son vœu de chasteté de la part de Gérard Croissant et les conséquences terribles pour les victimes, la plupart du temps des jeunes sœurs en couvent, prévient Robert Coffi, l'archevêque d'Albi de 74 à 85, puis à l'époque, il était archevêque de Marseille de 85 à 95, et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit de se taire. Je cite: Il couchait avec des bonnes sœurs de la communauté et aussi en dehors, qui étaient très meurtries. Et si jamais elle tombe enceinte, elle lui demande. Lui, Croissant, il répond: Bah, elle ira faire sa grossesse aux USA et elle reviendra avec le bébé comme si elle l'avait adopté. Ça m'a fait un tel choc que je leur ai balancé que pour moi c'était une secte. Fin de citation. On y retrouve aussi Gérard Croissant au Rwanda, avec sa nouvelle ONG, Anawa, où il avait ouvert un orphelinat miteux avec uniquement des enfants préadolescents et sans jouets. Cela est très suspect de notre point de vue. Les orphelinats tenus par des pédocriminels dans le tiers-monde sont des couvertures aisées pour du tourisme sexuel pédocriminel, justement. Aujourd'hui, Gérard Croissant coule une retraite paisible et décomplexée dans les Landes. Par exemple, on se souviendra de, je vous renvoie à un article qu'on avait fait sur le juge pédocriminel Broali, qui avait donc des différentes ONG, notamment, et un orphelinat au Cambodge, donc l'association Enfants du Cambodge et l'association Sœurs Sourires Retrouvés, qui levait des fonds sur Lyon pour ça, alors qu'il a été chopé au Cambodge pour des faits pédocriminels et également en France par rapport à de la pédopornographie, etc. On revient aux béatitudes toujours. En 2019, un prêtre, Jacques Marin, est accusé d'avoir agressé sexuellement au moins trois religieuses majeures lors de confessions notamment. Il avait déjà été pris pour des mêmes faits en interne en 2001, mais sans conséquence. Il mourra 6 mois plus tard, fin 2019. En 2021, c'est un enfant de 15 ans qui a été violé par le prêtre belge Bernard L. dans une maison de la communauté des Béatitudes installée en 1991 à Makwa, une petite ville au Congo-Brazzaville, qui avait été installée en 99. Non, pardon, installée en 91, et la victime a été violée en 99. Et donc en 2021, il a parlé. Il reconnaît les faits. Le prêtre belge a reconnu les faits. Il a payé un dédommagement de 10 000 euros à la victime, et puis fin de l'histoire. Donc vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien de l'ONG Anawa, hein, qui lève des fonds pour sauver les pauvres enfants africains, évidemment. Je vous ai mis le lien donc de l'article du juge Broali. Je vous ai mis également le lien d'un livre, hein, qu'avait fait Jacques Marin, évidemment. Europe, où est-il ton Dieu? Eh bien oui, bien sûr, ils sont tous européens. Européiste, et puis l'article évidemment de Jeune Afrique qui parlait de cette affaire au Congo. Voilà, mais c'est le peu de choses qu'on trouve un petit peu sur Internet. Évidemment qu'il y a beaucoup plus d'affaires autour de cette communauté. Revenons donc un petit peu aux sources finalement de Gérard Croissant et voir un petit peu ses mentors et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est l'Eau Vive. La communauté de l'Arche, la communauté donc de l'Eau Vive, de l'Arche, et puis quelque chose qui s'appelle la communauté Poincœur et la communauté Saint-Jean. Vous allez voir que tout est lié. Donc le mentor de Gérard Croissant est Thomas Philippe, inventeur d'une doctrine mystico-sexuelle qu'il avait appliquée à la communauté de l'Eau Vive, où il y a eu donc des viols sous emprise avec des bonnes sœurs dans les années 50, avec officiellement un groupe d'à peu près une petite cinquantaine de membres à l'époque. Et du coup, suite à cette affaire, malgré la dissolution de l'Eau Vive en 56 par l'Église, le groupe renaît en 64 dans une commune de l'Oise à Trolley-Breuil avec le Canadien Jean Vanier, lui-même agresseur d'au moins 6 sœurs entre 70 et 2005, sous la forme d'une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche. Jean Vanier a été nommé commandeur de la Légion d'honneur canadienne en 2015. Il meurt en 2019. Donc aujourd'hui, l'Arche, en fait, ça regroupe 154 communautés dans 38 pays. 39 communautés en France, 30 au Canada, totalisant plus de 10 000 personnes en tout. L'activité principale, écoutez bien, est d'accueillir plus de 1 300 handicapés qui soit vivent dans les communautés et ou y travaillent. En 2023, il y a eu un décompte fait par la communauté elle-même par rapport aux affaires. Elle décompte au moins 25 victimes entre 1952 et 2019. Ce Thomas Philippe influencera aussi un autre qui s'appelle Thierry de Roussy, qui fera des victimes dans la communauté Poincœur, encore appelée la fraternité Molokai, qu'il créera en 90 à Paraná, en Argentine, donc une ville argentine. Donc là, il y a des viols sur son bras droit, notamment. Il a été condamné pour ça en 2011 à 80 000 euros de dédommagement. Suite à cette affaire, eh bien, la communauté de Poincœur est censée également être dissoute du point de vue du Vatican en 2017 et en 2020. Je vous ai mis les logos. Mais évidemment, la communauté, elle existe toujours en fait. Et elle a prospéré et elle a muté. Et aujourd'hui, elle s'est mise sous la forme d'une ONG. Donc le Vatican dit qu'il a plus rien à voir avec ça. Et vous allez sur leur site, je vous ai mis, ils mettent des jolies photos avec des enfants un peu partout. Hein? Des enfants, des gens qui s'occupent des enfants pauvres dans les quartiers. Et enfin, vraiment, c'est limite un prospectus pour pédophiles. Donc, elle est présente Poincœur dans 17 pays et regroupe presque 300 membres. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles de grandeur, mais quand même. Donc les pays, Cuba, Honduras, Salvador, Costa Rica, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Argentine, Uruguay, mais aussi, donc ça c'est pour le continent sud-américain, mais aussi on a en Roumanie, Grèce, Italie, Sénégal, Inde, Philippines, Japon. Je cite, écoutez bien. Son objectif de Poincœur, c'est d'offrir une amitié gratuite et désintéressée à ceux qui souffrent dans le monde, spécialement les enfants, en apportant une présence d'amour et de réconfort. Ben oui, hein, qui peut être contre ça? Qui peut être contre ça? En 2023, une émission de télé-réalité réalisée par Feu, donc qui a disparu, la chaîne de télévision C8, est tournée au couvent Saint-Dominique de Corbara, géré par la communauté Saint-Jean, alors qu'elle était, cette communauté, déjà concernée par des scandales de viol sur mineurs. Une communauté où le concept d'amour-amitié, donc le truc mystico-sexuel là de Thomas Philippe, était établi et se traduisait par des gestes de tendresse illimitée, tant qu'il n'y a pas de pénétration, sous couvert de montrer à la personne qu'elle est aimée de Dieu. Ah, bah oui, formidable! Et donc la communauté Saint-Jean avait des liens avec la communauté des Béatitudes, puisqu'il y avait des formations, c'est-à-dire que la communauté des Béatitudes venait bah, répandre la bonne parole de l'amour-amitié au sein de plein d'autres communautés religieuses. Formidable. En 2023, on comptait au sein de la communauté Saint-Jean à minima 209 cas d'abus sexuels, qui correspondait à 167 victimes, dont 44 mineurs. Donc 44 mineurs sur 167 victimes, de ce qu'on sait, hein. Et 79 auteurs, donc agresseurs, 72 frères et 6 sœurs, dont 37 sont encore dans la congrégation, et seulement 6 sur 79 ont été condamnés par un tribunal étatique. Il y a 10 enquêtes qui sont encore en cours, et au moins 12 plaintes ont déjà été classées sans suite par le parquet. Quel choix judicieux, n'est-ce pas? Il y avait, hein, on pouvait faire une télé-réalité catholique, et bien sûr, c'est cet endroit-là qu'on va choisir. Alors on arrive dans une partie où on va prendre un peu plus de recul, en se demandant, mais est-ce que c'est bien des communautés déviantes, ou est-ce qu'il y a un problème plus profond? Alors, en devant prendre un peu de recul, il est clair que le pouvoir est globalement anticlérical en France et que le fait de taper sur les catholiques est toujours bien vu par tout le monde, journalistes et politiques les premiers. On doit rappeler que l'omerta sur les actes pédocriminels n'est pas une spécialité de l'Église. Hein. Les mutations discrètes ont été constatées de la même manière dans l'éducation nationale, par exemple, jusqu'à il y a peu. On rappellera ici notamment l'affaire de Villefontaine, je vous ai mis le lien vers notre article, qui rappelle toute l'affaire, avec le franc-maçon pédocriminel récidiviste instituteur Romain Farina, qui avait déjà sévi à Vénissieux pendant de nombreuses années dans la banlieue de Lyon, et qui s'est opportunément suicidé en prison avant son procès, alors qu'il y avait des disques durs avec des milliers et des milliers de matériel, on ne sait pas ce qu'il y avait dessus, on ne l'a jamais su puisque la police l'a saisi et c'est jamais sorti. N'est-ce pas? Et c'est bien dommage. Car on y aurait certainement appris des choses intéressantes. De même, à quand un rapport sauvé dans l'éducation nationale? Hein? Des grandes structures où il y a de l'omerta sur la pédocriminalité, où il y a potentiellement des réseaux, mais là, bizarrement, il n'y a pas de commission parlementaire, il n'y a pas de rapport sauvé. Ou dans l'ASE, n'est-ce pas? On a des documentaires, on sait que ça dysfonctionne à tous les étages, on sait qu'il y a énormément de départements où ça ne va pas du tout. Mais pourquoi il n'y a pas de rapport sauvé, n'est-ce pas? Ou dans les structures d'accueil des handicapés? Ou dans les structures de l'animation? Ou dans le sport? Ou dans la franc-maçonnerie? Etc. Ceci dit, nous devons aussi rappeler qu'il y avait d'autres réseaux de pédocriminalité, notamment en Allemagne, il y avait tout un article réseau dans la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, numéro 54, à Spire et Thal, où en fait il y avait donc un réseau d'enfants esclaves sexuels au sein même des couvents à destination des ecclésiastiques et des notables locaux. Donc je vous renvoie à cela, vous irez voir. Donc de même, on peut aussi signaler que souvent en fait les victimes ou leurs parents tombent des nues quand elles découvrent que ces communautés, en fait, ben, elles étaient validées par le Vatican. Elles avaient confiance pour ces raisons-là. On va également rappeler le documentaire de Carl Zero, qui s'appelle Vatican, la conspiration du silence, qui traite justement de ce pays, donc le Vatican, qui est un quartier de Rome, et qui est un pays souverain, et qui a longtemps voulu gérer en fait en interne les multiples cas de pédocriminalité dans l'Église au travers le monde, avec des formules du genre hein, le linge sale, ça se lave en famille, la justice des hommes est différente de celle de la justice divine, ou des trucs comme ça. Mais il semblerait aussi, si on va un petit peu plus loin, que le Vatican soit lui-même complètement corrompu, en fait. Économiquement, donc je passe sur le chapitre avec la Banque du Vatican, etc., au niveau des détournements d'argent, mais aussi moralement, notamment avec le Concile Vatican II qui s'est eu lieu en 1962, qui a en fait entériné cet état de fait aux yeux de nombreux catholiques lucides et qui aujourd'hui prennent leur distance avec l'institution. Ainsi, un article de 2013 faisait état d'un lobby gay au Vatican, où théoriquement tout le monde a fait vœu de chasteté quand même. Hein. Et ça a été dénoncé dans un livre par l'exorciste du diocèse de Rome, Gabriel Amorth. Et cela avait été outrageusement démontré par la découverte en flagrant délit au sein même du Vatican d'une orgie gay à grand renfort de drogue en 2017 par un des prélats du Vatican. Hein, où la police est intervenue, je vous mets l'article, vous avez le lien du livre de l'exorciste aussi, vous avez le lien de l'article italien. Donc on peut se poser la question, hein, faut-il vraiment attendre quelque chose en termes de contrôle de la part d'une institution qui, selon les principes catholiques, en fait, est infiltrée de longue date par le diable lui-même pour la détruire de l'intérieur? Donc là, je cite des catholiques qui pensent ça. De même, on ne va pas être naïf sur le contrefeu politique. Hein. Donc on se rappellera, pour les plus anciens, qu'il y avait eu un soi-disant duel Cohn-Bendit-Bayrou lors des élections européennes de 2009. Je vous ai mis l'extrait. Où Bayrou, du coup, accusait ouvertement Cohn-Bendit de son passé pédophile. Il était candidat pour les Verts, et il a été d'ailleurs Cohn-Bendit député européen pendant des années et des années. On imagine, du coup, aujourd'hui, vu ce qu'on sait, la frustration de Cohn-Bendit face à Bayrou, qui, entre guillemets, utilise la carte pédo, alors que, comme tout le monde, Cohn-Bendit, comme tout le monde, sait pour Bétharram. On se rappelle aussi, atterré, de la levée de bouclier de tous bords qui a suivi, où on vous rappelle, on voit donc Xavier Bertrand, le franc-maçon de droite, et Martine Aubry, la franc-maçonne de gauche, contre cette, je cite, attaque personnelle, manquant de dignité et pas à la hauteur du débat politique. Hein, donc ça, c'était l'ambiance en 2009. Alors je vous rassure, je vous ai mis l'article, Bayrou et Cohn-Bendit se réconcilieront extrêmement rapidement, juste après cette petite altercation. Vous voulez l'union nationale en France? Ben, parlez de pédocriminalité, et vous aurez tout le monde contre vous. Personne n'est dupe que la nomination de Bayrou en décembre 2024, alors que le collectif de Bétharram est actif depuis fin 2023 et médiatisé nationalement depuis début 2024, est quand même très étrange. Qu'on ne trouve personne pour accepter d'être Premier ministre en France dans la Macronie agonisante, d'accord, mais là c'est un peu gros. C'était un homme avec des énormes casseroles, tout le monde le savait, Macron le premier, évidemment. Il avait en plus tous les moyens de l'État depuis, donc il est en fin de deuxième mandat, évidemment, qu'il avait tous les renseignements des RG. Donc le scénario actuel, où on est en train d'interroger Bayrou pour savoir s'il ment ou ment pas, et d'essayer de le faire démissionner de son poste de Premier ministre alors qu'ils ont déjà écopé Barnier, enfin bref. C'était une évidence que ça allait se passer comme ça. C'était facile à anticiper, et c'est donc facile à prévoir. Le choix, en fait, c'est forcément un sacrifice prévu, un contrefeu, un os à ronger pour l'opposition. On laissera d'ailleurs, je vous laisse regarder l'extrait, le youtubeur en juste milieu qui étaye un petit peu cette affirmation dans l'extrait sur sa chronique sur Bétharram et voir un petit peu voilà, de quoi ça peut être un contre-feu. Les hypothèses sur ce que ce pseudo-scandale Bayrou cache, alors que finalement ça prend la place du scandale Bétharram. Hein, c'est des enfants et de Bétharram qu'il faut parler. C'est pas de savoir si Bayrou ment ou pas. Puis c'est pas Bayrou tout seul, c'est plein de gens. Plein de gens. C'est tout un système. Néanmoins, les temps changent. Aujourd'hui, la pédocriminalité est devenue donc un moyen accepté par les politiques pour faire tomber quelqu'un. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce que d'ailleurs on peut d'ailleurs se demander si c'est pas en fait une petite vengeance par rapport à ce qui s'est passé en 2019, hein. Il avait un peu pas respecté la règle, le copain François. Donc là, hein, c'est peut-être un retour de bâton. Donc, tant mieux, hein, on va se réjouir de ça, sans naïveté. Refermons le dossier Betarame en laissant le mot de la fin à Carl Zéro, qui, lucide, constate les avancées symboliques du combat contre la pédocriminalité de réseau en France, puisque dans Betarame, on se doute qu'il n'y aura pas énormément de gens impliqués au-delà du pauvre, pas du pauvre, mais du surveillant qui est incarcéré aujourd'hui. Je cite, je vous ai mis l'extrait dans les incorrectibles. C'est déjà pour moi une immense victoire qu'une affaire de pédocriminalité soit remontée à un tel niveau en France, un tel niveau médiatique et politique. C'est la première fois historiquement que notre combat, celui de la lutte contre la pédocriminalité, a droit de cité de façon si voyante. Fin de citation. Et effectivement, il faut se rendre compte que c'est une victoire symbolique. On reviendra aussi sur la question de la prescription pour les crimes pédosexuels. Toutes les victimes demandent l'imprescriptibilité des crimes sur les enfants, notamment du fait de la réalité clinique de l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que quand vous subissez des abus sexuels quand vous êtes enfant, bien souvent, dans une proportion importante des cas, votre cerveau vrille complètement et va occulter, et vous pouvez vivre le reste de votre vie sans vous en souvenir. Et à un moment donné, il y a un événement, la naissance d'un enfant, quelque chose dans la presse, ça ressort, et d'un coup, vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé. Mais en fait, pour des questions de survie, devant la violence qui est tellement terrible des actes qui vous sont commis sur vous en tant qu'enfant, votre cerveau vous protège en fait en niant la réalité et en vous empêchant de vous en rappeler. Donc c'est ça l'amnésie traumatique. Et du coup, forcément, avoir un délai de prescription sur des crimes comme ça, alors qu'il y a ce genre de fait clinique, ça n'a pas vraiment de sens. Hein? Et puis on peut aller plus loin en disant, les crimes sur les enfants, il y a quoi de pire? Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'un enfant en tant que victime? Alors on va être un petit peu précis là-dessus, parce qu'on a eu un débat il y a quelques années au niveau parlementaire là-dessus, et on est allé finalement jusqu'au bout du rouleau. On a compris les choses, et il faut quand même les rappeler. Soyons précis et rappelons les arguments qui clôt les débats selon le législateur jusqu'à présent, avec ci-dessous les propos de la sénatrice, donc c'est plutôt une idiote utile d'après nous, Marie Mercier, qui reprend les conclusions du toujours anonyme Conseil d'État. Hein, le Conseil d'État, c'est quelqu'un qui rend des décisions pas vraiment juridiques, un peu sur tout. Et en fait, il y a des experts, hein, qui sont appelés dans ce Conseil d'État. C'est pas des gens qui sont. Il y a des gens permanents, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont appelés. Et pour pas être exposé, on sait jamais qui les rend. C'est bien pratique. Hein. Là, on est vraiment dans la franc-magouerie de notre beau pays. Écoutez bien, je cite Marie Mercier au Sénat. Il y a quelques années. Malgré toute l'horreur de ces crimes pédocriminels, on ne peut pas les traiter de la même façon que la Shoah. Sinon, où est-ce qu'on va placer la hiérarchie? La prescription, elle ne va pas protéger les criminels. Elle protège le droit à un procès équitable et respecte aussi et encore la victime. Voilà, fin de citation. À bon entendeur. Enfin, concluant tout cela en citant celui qui est dans la bouche de tous, mais dont la parole est continuellement bafouée par ces réseaux soi-disant chrétiens, hein, qu'on ne prenne pas ou anti-pédos pour des anti-ci, des anti-ça, nous on est juste pour que les enfants arrêtent de subir des crimes sexuels et essayer de juguler ça au maximum. Donc citons celui qui est dans toutes les bouches, Jésus-Christ. Donc scandalisé, donc au niveau du vocabulaire, il y a 2000 ans d'écart. Scandalisé, ça veut dire mépriser, maltraiter, pervertir. Et les petits, pour ça se dit toujours aujourd'hui, les petits, c'est les enfants. Donc, Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, versets 1 et 2. Jésus-Christ dit: Il est impossible qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer que de scandaliser un de ses petits. C'est pourtant clair.